Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 4, Le balafré. Ce cavalier était de ceux dont Louis XI avait dit, il y avait déjà longtemps, qu'ils tenaient entre leurs mains la fortune de la France, puisque c'était à eux qu'était confiée la garde et la sûreté de sa royale personne. Chacun d'eux avait le rang de gentilhomme, avec les honneurs attachés à ce titre. Le seul fait d'approcher de la personne du roi leur donnait, à leurs propres yeux, de la dignité aussi bien que de l'importance aux yeux de la France entière. Ils étaient somptueusement armés, équipés et montés. Chacun d'eux avait le droit d'entretenir un écuyer, un varlet, un page et deux servants. L'un des deux s'appelait Coutelier, à cause du grand couteau qu'il portait pour dépêcher ce que son maître avait renversé dans la mêlée. Un archer de la garde écossaise était donc un personnage de qualité et d'importance. Comme les places vacantes étaient généralement données à ceux qui avaient fait leur apprentissage en qualité de page ou de varlet, les cadets des meilleures familles écossaises venaient servir sous les auspices de quelques parents ou de quelques amis en attendant leurs vacances. Le coutelier et son compagnon, qui, n'étant point nobles, n'avaient pas le droit de devenir archers, étaient recrutés parmi les gens de moindre qualité. Mais comme ils étaient bien payés et bien traités, leur maître n'avait que le choix parmi les plus forts et les plus braves aventuriers venus d'Écosse. Ludovic Leslie, autrement dit le balafré, avait plus de 6 pieds. C'était un homme robuste, avec une physionomie peu avenante, rendu encore moins agréable par l'effet d'une cicatrice qui partait du front et aboutissait au lobe de l'oreille droite. Selon les circonstances, cette cicatrice était écarlate, pourpre, bleue ou même noire. Le costume et les armes de Leslie étaient splendides. Il était coiffé du bonnet national, orné d'une touffe de plumes et d'une broche d'argent massif représentant la Vierge Marie. Il portait gorgerin, brassard et gantelet d'acier fin, avec de curieuses incrustations d'argent. Et son haubert, ou cotte de maille, était aussi clair et aussi brillant que la gelée blanche déposée par une matinée d'hiver sur la fougère ou sur la ronce. Il était paré d'une large casaque en velours bleu, ouverte sur les côtés comme celle d'un héros, avec une grande croix de Saint-André brodée en argent par devant et par derrière. Ses genoux et ses jambes étaient protégés par un haut de chausse de maille, et il portait aux pieds des chaussures d'acier. À son côté droit pendait un large poignard appelé Miséricorde de Dieu. Un baudrier richement brodé, qui lui passait sur l'épaule gauche, soutenait son épée à deux mains. Pour le moment, par commodité, il portait à la main cette arme embarrassante, dont il lui était interdit de se séparer jamais. Quentin Durward se dit qu'il n'avait jamais vu tournure plus martiale et figure moins engageante. L'autre, après l'avoir embrassé sur les deux joues, lui demanda des nouvelles du pays. « Peu de nouvelles, cher oncle, » répondit le jeune Durward, « mais je suis bien content que vous m'ayez reconnu si facilement. » « Je t'aurais reconnu dans les landes de Bordeaux, monté sur une paire des chasses. Mais assieds-toi, assieds-toi. S'il y a de mauvaises nouvelles, il nous faut boire un coup pour avoir la force de les supporter. Holà, quelqu'un, du meilleur, à l'instant. » Ils eurent bientôt devant eux un flacon de champagne. L'oncle but une rasade, le neveu une simple gorgée, par politesse, alléguant comme excuse qu'il avait déjà bu du vin le matin. Cette excuse-là serait acceptable dans la bouche de ta sœur, beau neveu, dit le balafré. Mais si vous tenez à avoir de la barbe et à vous appeler soldat, il ne faut pas avoir peur du pot-au-vin. Allons, allons, débouclez-moi le sac aux nouvelles. Parlez-moi de Glen Houlakin. Comment se porte ma sœur ? Morte, dit l'oncle, répondit tristement Durward. Morte ? Répéta l'oncle, avec plus de surprise que de sympathie. Elle avait 5 ans de moins que moi, et je ne me suis jamais mieux portée. Morte? Pas possible. Et votre père, beau neveu, S'est-il remarié? Hélas, cher oncle, quand ma mère est morte, elle était veuve depuis un an. Depuis le jour où Glen Ullakin a été mis à sac par les Olgivies. Mon père, mes deux oncles, mes deux frères aînés, sept de mes parents, le joueur de harpe et sept autres de nos gens furent tués en défendant le château. Il ne reste pas pierre sur pierre de Glen Ullakin. Croix de Saint-André, dit le balafré. Voilà ce que j'appelle une tuerie. Aussi ces Olgivies ont toujours été de fâcheux voisins pour Glen Ullakin. Mauvaise chance, hasard de la guerre, hasard de la guerre. Et quand ce malheur est-il arrivé, beau neveu? Là-dessus, il but un grand coup de vin et secoua la tête avec solennité. Son neveu lui dit que le massacre avait eu lieu le jour de la fête de Saint-Jude. André, André! Cria le balafré. André, son coutelier, apparut. Ôtant de son cou une lourde chaîne d'or, le balafré, avec ses dents, en coupa la longueur de 4 pouces environ, et dit à son coutelier: André, portez cela à mon joyeux compère, le père Boniface, le moine de Saint-Martin. Présentez-lui mes compliments. Dites-lui que mon frère et ma sœur, et quelques autres de ma maison sont morts. Priez-le de dire des messes pour le repos de leurs âmes, la valeur de ces chaînons. Et puis écoute, comme c'était de bonnes gens, purs de toute hérésie, il n'en coûtera peut-être pas grand-chose pour les tirer du purgatoire. Dans ce cas-là, écoute-moi bien, que le bon père emploie le surplus en malédiction sur une race qu'on appelle les Olgivies, du comté d'Angus, les malédictions les plus sûres dont l'Église puisse disposer. Vous me comprenez bien, André. Le coutelier fit un signe de tête. Surtout, ajouta le balafré, qu'aucun de ces chaînons ne prenne le chemin du cabaret, qu'ils arrivent tous entre les mains de mon compère. Sinon, gare les étrivières. Ah, attends, je vois que tu fais les yeux doux à ce flacon. Tu ne partiras pas sans boire un coup. Il lui versa une pleine coupe de champagne. Le coutelier la but et se mit en route pour s'acquitter de sa commission. Et maintenant, mon beau neveu, dit l'oncle, voyons ce que vous êtes devenu au milieu de la bagarre. Je me suis battu comme mes aînés, jusqu'à la fin, et j'ai reçu de graves blessures. Les Olgivies, lasses de tuer, et cédant aux supplications de ma mère, me laissèrent la vie. Il y avait au château un savant moine d'Aberbrosick qui avait bien failli être tué dans la bagarre. Ils lui permirent de bander ma blessure et de me soigner, mais à une condition, c'est que l'on ferait de moi un moine. Ma mère et le religieux furent contraints de le promettre par serment. Moine! S'écria l'oncle, vénérable Saint-André. Alors, beau neveu, vous étiez pour vous faire moine. Mais à propos de quoi, je vous prie? Pour que la famille de mon père s'éteignît, répondit Quentin. Je vois, répondit l'oncle. Je comprends. Malin drôle, très malin. Considérant que ma mère s'était engagée en mon nom, reprit Durward, je me laissai persuader de prendre l'habit de novice. Je me conformai donc aux règles du couvent, et même j'appris à lire et à écrire. À lire et à écrire! S'écria le balafré, émerveillé du savoir de son neveu. À écrire, dis-tu, et à lire? Je ne peux pas croire cela. Jamais un Durward ou un Leslie n'a su écrire son nom, que je sache. Il y en a du moins un dont je puisse répondre. Il me serait tout aussi impossible d'écrire que de voler. Mais par le nom de Saint-Louis, comment donc s'y sont-ils pris? C'était très ennuyeux pour commencer, dit Durward. Mais avec l'habitude, je trouvais la chose plus facile. Comme je désirais complaire à mon sauveur, le père Pierre, et que j'étais affaibli par mes blessures, on n'eut pas trop de peine à me tenir à la tâche. Après avoir langui quelques mois, ma pauvre mère mourut. Comme la santé m'était revenue, j'avouai au père Pierre que je n'avais pas la vocation religieuse. Il fut convenu que je rentrerais dans le monde pour y chercher fortune. Afin que le père Pierre, sous-prieur du couvent, ne fût pas en butte à la vengeance des Algivises, je ferai semblant de prendre la fuite. Et pour donner plus de vraisemblance à la chose, j'emportai le faucon de l'abbé. mais j'ai mon congé régulier, signé de l'abbé lui-même et scellé de son sceau. Voilà qui est bien, dit l'oncle. Quoi que tu aies pu faire d'ailleurs, notre roi ne s'en inquiétera guère. Mais il a horreur des gens qui jettent le froc aux orties. Et je parierais que tu n'as pas la bourse trop bien garnie. Je n'ai que quelques pièces d'argent, à vous, cher oncle, je puis le confesser. Holà, répliqua le balafré. Voilà qui est fâcheux. Moi, je n'ai pas l'habitude d'économiser sur ma paye. À quoi bon se charger d'un fardeau inutile par ces temps dangereux? Mais du moins, j'ai toujours, et je vous engage à suivre mon exemple, quelques chaînes d'or comme celle-ci, ou bien quelques bracelets, ou bien encore un collier. Cela me sert de parure, et dans les moments difficiles, je puis faire argent de quelques chaînons ou de quelques pierreries. Vous me demanderez peut-être, beau neveu, où l'on se procure ces joujoux-là? Et moi, je vous répondrai, au service du bon roi de France. Oui, on y récolte toujours quelques bonnes aubaines, quand on a du cœur, et qu'on fait bon marché de sa vie. Il ne se passe pas un jour qu'il ne nous donne quelque commission, au bout de laquelle il y a de l'argent et de l'honneur à gagner. N'allez pas croire que les plus beaux et les plus audacieux exploits soient ceux qui s'accomplissent à la lumière du jour. Je pourrais vous en citer où tel, dont le nom restera ignoré, a couru plus de risques et a gagné une plus haute faveur que toutes vos têtes folles à la suite de ce fou de Charles de Bourgogne. Et s'il plaît à Sa Majesté de rester au second plan pendant que de tels exploits s'accomplissent, elle n'en a que plus de loisirs pour admirer et plus de générosité pour récompenser les aventuriers, dont elle apprécierait peut-être avec moins de netteté les dangers si elle les avait partagés avec eux. Son neveu garda un instant le silence. Puis il dit à voix basse et d'un ton à faire impression. Le bon père Pierre me répétait souvent qu'il peut y avoir beaucoup de dangers dans des actes dont on ne peut tirer que peu de gloire. Je n'ai pas besoin de vous le dire, cher oncle. Je suppose naturellement que les missions secrètes doivent être toujours honorables. Pour qui ou pourquoi me prenez-vous, beau neveu? Dit le balafré d'un ton sévère. Sans doute je n'ai pas été élevé dans un cloître, et je ne sais ni lire ni écrire. Mais je suis le frère de votre mère, je suis un loyal Leslie. Me croyez-vous capable de vous conseiller rien de honteux? Le plus preux chevalier de France, du Guesclin lui-même, s'il vivait encore, serait fier de citer comme sien quelques-uns de mes exploits. Mais voici la cloche de Saint-Martin qui sonne. Il faut que je me hâte de retourner au château. Adieu. Demain à 8 heures, présentez-vous devant le pont-levis et demandez-moi à la sentinelle. Vous verrez le roi et vous pourrez le juger par vous-même. Adieu. Là-dessus, le balafré s'éloigna à grands pas, oubliant dans sa précipitation de payer le vin qu'il avait demandé.